Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement religieux, un dogme, une vérité que nombreuses personnes jugent indiscutable. Une croyance que l'on associe à la religion chrétienne, mais qui n'a rien à voir, vraiment rien, avec le véritable christianisme qui fut institué par Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la mère du Christ, qu'on appelle communément et à tort la Vierge Marie. Nous allons également parler de l'Assomption, une fête religieuse absente des enseignements bibliques. Le culte qui est rendu à la Vierge Marie n'a rien de biblique. C'est un culte qui provient exclusivement du culte païen, pré-chrétien, qui commencèrent avec un personnage historique qui a réellement existé, une femme dénommée Semiramis. Semiramis n'est pas nommée nominalement dans la Bible. La Bible la nomme la femme ou encore la grande prostituée. L'histoire de Semiramis remonte au déluge. À cette époque, Noé avait trois fils qui se nommaient Sem, Japhet et Cham. Intéressons-nous à Cham. Cham est l'ancêtre des peuples noirs. Cham eut quatre fils, dont l'un se dénomme Couche. Couche, à son tour, eut plusieurs enfants, dont l'un se nomme Némrod. Némrod est un personnage biblique. Son nom signifie le rebelle. Il est connu dans l'histoire profane sous le nom de Ninus. Némrod et Ninus, deux noms qui désignent la même personne. Némrod est présenté dans la Bible comme le premier héros postérieur au déluge, un chasseur réputé et fondateur du premier royaume post-déluge et de plusieurs villes en Mésopotamie. Némrod fut le fondateur de Babylone, de Ninive et de bien d'autres villes païennes. Il a essayé d'édifier la tour de Babel. Dieu l'en empêcha. Cush et son fils Nimrod sont nommés dans la Bible. Reportons-nous au livre de la Genèse. Genèse 10. Genèse, chapitre 10. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et au verset 9, nous lisons, « Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. » C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, « vaillant chasseur devant l'Éternel. » Semiramis entre dans l'histoire du monde et dans l'histoire biblique lorsqu'elle épouse Nimrod, avec lequel elle partage le pouvoir royal. Nimrod meurt relativement jeune pour l'époque. À sa mort, Nimrod laisse une veuve désespérée, Semiramis. Semiramis, veuve, c'est un drame. Un drame pour une femme qui partageait le trône de Babylone avec son mari Nimrod. Mais son mari est mort. Nimrod, mort, sa femme, Semiramis, allait perdre tout son pouvoir. Pouvoir qu'elle n'était pas prête à abandonner. Pour garder son pouvoir et son influence sur Babylone, elle échafaude un projet machiavélique qui consiste à faire croire que Nimrod n'est pas mort. Vivant, Nimrod était honoré comme un héros mort. Un héros mort, mort, Semiramis, sa femme, le fera adorer comme un dieu. Et comment s'y prit-elle ? Elle fit croire qu'elle était tombée enceinte miraculeusement à la suite de l'intervention de forces divines. Rien de miraculeux dans sa grossesse. L'histoire et les légendes nous disent que Sémiramis avait une sexualité débridée, mais pas que. Elle avait également une sexualité dépravée, déréglée et dissolue. Elle aurait eu de nombreux enfants, tous de pères différents. Suite à une prétendue intervention divine, prétend-elle, Sémiramis enfante un fils qu'elle dénomme Tammuz. Et il serait né un 25 décembre. Elle prétend que le fils qui lui est né est une réincarnation de son mari, ce qui lui permet, premièrement, de rester la tête de Babylone, et deuxièmement, d'épouser son fils Tammuz, puisqu'il ne serait que son défunt mari Nemrod. À partir de là, il y a une ambiguïté. Tammuz est à la fois le fils de Sémiramis, mais également son époux, puisqu'elle prétend que son fils Tammuz et la réincarnation de Nimrod sont défunts maris. Nous avons trois personnages, Sémiramis, Nimrod et Tammuz. Ces trois personnages, vous les connaissez, mais pas sous ces noms. Récapitulons. Le premier personnage, c'est Nimrod. Nimrod, fondateur du premier royaume post-déluge. Il est une fausse représentation de Dieu le Père. Nimrod est en réalité un archétype humain de Satan. Le deuxième personnage, c'est Sémiramis, la mère incestueuse de toutes les impudicités. Toutes les pratiques sexuelles déviantes qui peuvent exister sur cette terre ont été introduites par cette femme. Apocalypse, nous pouvons lire ça en Apocalypse 17. Apocalypse, chapitre 17, verset 4. Nous lisons. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sémiramis est une fausse représentation de Marie, la femme de Joseph. Sémiramis deviendra la personne que l'on connaît à la présente époque sous le nom de Vierge Marie. Le troisième personnage, c'est Tammuz, l'enfant soi-disant né. Un enfant soi-disant né miraculeusement. Il est une fausse représentation de Christ. Tammuz est un personnage biblique. Il est cité en Ézéchiel, chapitre 8, verset 14. Je ne vais pas m'y référer. Tammuz est connu maintenant sous le nom de Petit Jésus. L'expression Petit Jésus ne se trouve pas dans la Bible. C'est une expression blasphématoire et contraire aux enseignements bibliques. Les trois personnes dont je viens de vous parler sont à la base de l'enseignement de la Trinité. Sémiramis réussit à faire croire qu'elle, son mari et son fils, sont une seule et unique divinité en trois personnes. Sémiramis est la personne qui introduisit la doctrine de la Trinité. Le premier personnage de cette trinité, c'est Nimrod, une fausse représentation de Dieu le Père. Le deuxième personnage, c'est Sémiramis. Elle est censée représenter dans la trinité l'Esprit Saint. Notons d'ailleurs que dans l'art pictural, Sémiramis est souvent représentée avec une colombe au-dessus d'elle, la colombe étant un symbole majeur de l'Esprit Saint. Le troisième personnage, c'est Tammuz, le Fils. Cela donne la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnages, Nimrod, Sémiramis, Tammuz, sont devenus, c'est les Égyptiens, Osiris, Isis et Horus. Et chez les Romains, Jupiter, Vénus et Cupidon. Chez les Grecs, il s'agit de Zeus, d'Aphrodite et d'Eros. De Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandit jusqu'au bout du monde. En Inde, par exemple, la mère et l'enfant sont aujourd'hui connus sous les noms d'Isi et d'Iswara. Le culte de la mère et de l'enfant se retrouve également au Tibet, au Japon et en Chine. Sémiramis est représenté universellement dans l'art, plus particulièrement dans la peinture et dans la sculpture en femme portant dans ses bras un petit enfant. Anciennement, on l'a représenté poitrine découverte, un ou deux seins nus, mais il a été jugé que des représentations de Sémiramis seins nus n'étaient pas opportunes dans une église où il est demandé l'abstinence aux prêtres. Marianne, le symbole de la République française, n'est rien d'autre qu'une représentation de Sémiramis. Marianne est traditionnellement représentée poitrine opulente avec un ou deux seins nus. Mais en raison de la montée des intégrismes, on couvre dorénavant la poitrine de Marianne d'un voile. La poitrine de Marianne n'est pas dénudée en signe de liberté, comme certains le croient, mais en signe de la dépravation sexuelle de la personne qu'elle représente, à savoir Sémiramis. Dans les églises, lorsque vous prosternez devant une statue d'une femme portant dans ses bras un petit enfant, ce n'est pas la mère de Jésus que vous honorez, mais Sémiramis et son fils Tammuz. Les représentations de Sémiramis portant dans ses bras Tammuz se retrouvent dans toutes les religions et à toutes les époques. La raison en est que le culte que Sémiramis impose à Babylone le fut avant la division des langues et avant l'éparpillement des premières générations post-diluge dans le monde entier. Lorsque la confusion des langues prit place, hommes et femmes se dispersèrent dans le monde entier et emmenèrent avec eux leurs traditions et la religion babylonienne dont ils étaient imprégnés. C'est la raison pour laquelle on retrouve sa représentation partout dans le monde. Marie, le culte marial, trouve ses origines en la personne de Sémiramis. Toutes les déesses et reines célestes païennes et chrétiennes sont des types de Sémiramis. Parmi les reines célestes païennes et pré-chrétiennes, on peut citer les déesses Artémis, Astarté, Cérès, Cybèle, Déméter, Diane, Ishtar, Isis et Sélénée. Il y en a bien d'autres. Toutes ces déesses personnifient la même personne. Il s'agit de Sémiramis, l'épouse de Nemrod et mère de Tammuz. Après la naissance du Christ, le culte que l'on rendait à Sémiramis se transforma en culte à la mère du Christ qui fut appelée la Vierge Marie. Aujourd'hui, une grande partie du christianisme est de nature corrompue. Il tire son origine non pas du christianisme primitif et apostolique, mais de pratiques religieuses issues du paganisme, pratiques religieuses que l'empereur romain Constantin a légitimées à partir du concile de Nicée en 325 de notre ère. Reportons-nous au livre des Romains. Romains, chapitre 1, verset 22. Nous lisons Romains 1, verset 22. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes, leur propre corps, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Il y a une question que l'on pourrait se poser et que l'on doit se poser. La question est la suivante. Pourquoi les enseignements de Semiramis et de son mari Némrod se sont si facilement imposés et répandus dans le monde entier? Pourquoi? La raison en est due en partie à nos gènes. Il est un fait avéré. Tous les êtres humains ont un besoin inné de chercher Dieu ou de lui rendre un culte. Nous avons tous en nous une composante génétique qui nous prédispose à la spiritualité ou à la croyance religieuse. Un chercheur, Dean Hammer, a avancé l'hypothèse d'un gène de Dieu, le gène VMAT2. Comme on peut s'en douter, les travaux de ce chercheur sont contestés dans la communauté scientifique. Quoi qu'il en soit, l'homme a toujours ressenti le besoin de se référer à une divinité supérieure. Sa place dans l'univers lui fait comprendre qu'il n'est rien et qu'il doit y avoir une puissance supérieure. Reportons-nous au livre des psaumes. Le 8e, psaume 8. Psaume chapitre 8, verset 3, nous lisons. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est ce besoin inné de l'homme de rendre un culte à un Dieu qui permit si facilement à Semiramis de faire croire que son mari n'était pas mort et qu'il fallait l'adorer comme un Dieu. À la fin des temps, un leader puissant émergera et utilisera lui aussi à son avantage le besoin inné de l'homme de rendre un culte à Dieu. La bête de l'Apocalypse, tout à la fin de l'histoire humaine, se proclamera elle-même Dieu et installera son quartier général à Jérusalem sur le mont du Temple. Le besoin inné de l'homme de rendre un culte à un Dieu créateur a été développé par l'apôtre Paul devant les philosophes grecs de l'Aréopage d'Athènes. Lisons cela en Actes 17. Actes 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est la raison pour laquelle il nous faut vérifier, examiner toutes choses. C'est ce que nous dit la Bible. Je ne vais pas m'y reporter. La Bible nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Vérifier toutes choses, c'est une démarche que beaucoup de gens se refusent à faire par paresse intellectuelle ou par peur de la vérité qu'ils pourraient découvrir. Ne soyons pas des moutons qui se suivent et qui s'imitent mutuellement, sans réfléchir. Que l'on soit juif, chrétien ou encore musulman, nous le sommes parce que nos parents l'étaient. Et très peu se demandent, au fond, s'ils sont de la bonne religion. Très peu s'interrogent sur le fait de savoir si leur religion repose sur de véritables fondements. Ce n'est pas parce que nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents rendaient un culte à Marie et célébraient la fête de l'Assomption que l'on doit à notre tour le faire. Il y a un point essentiel à la compréhension de la Bible. Ce point est que la tradition orale ne doit pas l'emporter sur les Écritures. Christ, tout au long de son ministère, s'est opposé aux traditions orales. Pour Christ, la parole écrite était ce qu'il y avait de plus important. À de nombreuses reprises, Christ utilise l'expression « N'avez-vous pas lu dans la loi ?» Je vous donne une référence biblique parmi tant d'autres, Matthieu 12, verset 5. Je vais m'y reporter. Matthieu 12, verset 5. Nous lisons « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples sans s'en rendre compte ? Où n'avez-vous pas lu dans la loi ? Christ s'en référait continuellement à la loi. » Évitons de perpétuer de vieilles traditions ancestrales accumulées dans le cercle familial depuis des générations sans les vérifier. Les enfants acceptent et partagent naturellement et simplement la religion de leurs parents. Et ils le font sans s'interroger sur le bien fondé de ce qu'ils acceptent. Tant les catholiques que les musulmans et les juifs sont sincères dans leurs croyances. Mais ce n'est pas parce que l'on croit fortement à une chose que cela en fait une vérité pour autant. Ce n'est pas parce que quelque chose est largement accepté que c'est une vérité. L'acceptation large d'une idée ou d'un concept par une majorité ne garantit pas nécessairement sa véracité. Il nous faut tout vérifier et tout prouver par soi-même. Réfléchir sur les pratiques religieuses dont on a hérité est un défi à l'intelligence. Certes, cela demande des efforts intellectuels et spirituels. Si les gens lisaient la Bible, ils s'apercevraient que de nombreux enseignements religieux, soi-disant basés sur la Bible, ne le sont pas du tout. Un des enseignements que l'on trouve dans la Bible est que l'on doit lire la Bible, la lire, la relire, l'étudier sans cesse et ceci tous les jours de notre vie, pour vérifier que les enseignements religieux que nous recevons sont conformes aux écrits bibliques. Psaume, livre des psaumes, chapitre 1, psaume 1, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » La loi de l'Éternel, elle se trouve où ? Dans la Bible. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il lit la Bible. De nombreux courants religieux, pour se maintenir, ont intégré et se sont mélangés avec les cultes païens ancestraux. Par exemple, pour amener le monde à croire en Christ, on superposa de prétendues fêtes religieuses chrétiennes aux fêtes païennes. Traditionnellement, les païens rendaient un culte au soleil lors de grandes fêtes, les Saturnales, fêtes qui se déroulaient du 18 au 25 décembre. Pas de problème, on fit naître arbitrairement Jésus un 25 décembre. Pour évangéliser les païens, il fut toujours procédé de la même manière, à savoir assimiler des cultes païens ancestraux en les appliquant, tant bien que mal, aux écrits bibliques. Les païens, qui rendaient un culte à Sémiramis, ont pu continuer à le faire en adorant Sémiramis sous le nom de Vierge Marie. Quant aux païens qui rendaient un culte à Mithra, une divinité antique originaire de Perse, ils ont pu continuer à l'adorer. Ils ont pu continuer à adorer Mithra sous le nom de Jésus-Christ. Et le tour était joué. Cela a permis de construire une grande et fausse religion qui domine encore par le monde. La confusion est générale. Elle est entretenue. Cette confusion est entretenue par le prince de ce monde, à savoir Satan. Satan est le dieu du mensonge et de la confusion. Il est arrivé à ce que l'humanité accepte des histoires qui pourraient, si on n'y prenait pas garde, s'apparenter à l'histoire vraie de Joseph, de Marie et de Christ. Par exemple, si nous reprenons l'histoire de Némérod et de Sémiramis, Sémiramis fit croire que son mari, que son défunt mari, n'était pas mort. Que son mari n'était pas mort et qu'il devait, quand elle allait mourir, que son mari devait mourir pour le salut de l'humanité. Que fit Christ ? Pareil, Christ était vivant et quand il mourut, il est mort pour le salut de l'humanité. Acte 4, verset 12. Pourtant, nous lisons, acte 4, verset 12, nous lisons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le verset que je viens de vous lire s'applique à Christ. Sémiramis l'applique à son mari et à son fils. Il y a une confusion qui est entretenue entre les légendes païennes et la véritable histoire que nous livre la Bible. Je vais vous donner quelques exemples de cette confusion. Mithra, on en a déjà parlé, un faux dieu, une fausse divinité, dont la légende nous dit qu'il fit jaillir une source d'eau d'un rocher. Ce que fera Moïse quelques siècles plus tard. On en conclut que Moïse n'a rien fait et qu'il s'est inspiré d'histoires anciennes pour raconter sa propre histoire. Mithra, toujours lui, est connu pour le sacrifice d'un taureau dont le sang et le sperme devaient permettre la réconciliation du monde avec les forces créatrices du monde. Quelques siècles plus tard, furent instaurés par Dieu des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. Confusion. Le dernier acte de Mithra fut d'offrir un banquet pour sceller sa réconciliation avec ses ennemis. Au temps de la fin, la Bible parle également d'un grand banquet auquel participeront non pas les ennemis de Dieu, mais les élus. Bien avant que la Bible fût écrite, Satan le diable l'avait discrédité au travers de fausses légendes. Je vais encore vous donner un autre exemple. Némérod, on en a parlé. Némérod est à la fois l'époux et le fils. Il est l'époux de Sémiramis, il en est également le fils à travers Tammuz, le fils illégitime de Sémiramis. Christ, quant à lui, est également le fils de Dieu, mais également l'époux, l'Église et l'épouse du Christ. À son retour, l'Église sera unie à Christ. Des noces seront célébrées et une union éternelle sera scellée. Je vous donne la référence biblique, je ne vais pas m'y reporter, c'est Apocalypse 19, les chapitres 19 et 21. Satan a introduit dans le monde de nombreuses légendes pour rendre les êtres humains confus, inattentifs, sceptiques et critiques à la vraie religion. Satan a si bien œuvré qu'il est facile, très facile, de douter des écrits bibliques. Satan a bien réussi, mais ce que Satan ne comprend pas, c'est que Dieu voulait qu'il réussisse dans son projet d'obscurcir la vérité, pour que le plan de salut de Dieu pour l'humanité s'accomplisse. Le plan de Dieu ne peut se réaliser que si le monde dans lequel nous vivons, court à sa perte. Satan, quant à lui, veut précipiter le monde dans une crise finale, espérant ainsi vaincre Dieu. Satan, en agissant comme il agit, permet l'accomplissement du plan de Dieu. Ce paradoxe, que l'on appelle le paradoxe de Satan, souligne une profonde ironie spirituelle. Satan, en tentant de s'opposer à Dieu, ne fait en réalité que de contribuer involontairement à l'accomplissement ultime du dessein divin. Exemple biblique. Un exemple biblique typique de ce paradoxe, c'est la crucifixion du Christ. Judas, poussé par Satan, trahit Jésus, entraînant ainsi sa mort. Or, cette crucifixion est précisément l'événement central du plan divin du salut pour l'humanité. Satan est le dieu de la confusion. On le voit avec les nombreuses légendes antiques qui sont plus que confuses et embrouillées. La confusion la plus mortelle est celle concernant la vérité de l'Évangile. Les Écritures enseignent que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et qu'il a la vie inhérente en lui. Avec les nombreuses légendes suscitées par Satan, l'humanité perd la route du seul chemin qui conduit à la vérité. Nombreuses sont les personnes qui délaissent le seul chemin qui peut nous conduire à la vérité. Ce chemin, c'est Christ. Nombreuses sont les personnes qui n'adressent pas leur prière à Dieu le Père, mais à Marie. Dans de trop nombreuses églises, il est mis l'accent non pas sur Dieu le Père ou sur son Fils, mais sur Marie. De plus, Christ est représenté soit mort, cloué sur une croix, soit sous la forme d'un petit enfant bien inoffensif, alors que la Vierge Marie occupe une place centrale. Dans l'inconscient de beaucoup de gens, Marie occupe une place supérieure à Dieu le Père et à Dieu le Fils. On en arrive à donner la première place à Marie au détriment du Christ. Marie serait la compassion, la bonté, la douceur, la miséricorde, le pardon, alors que Dieu, le Père et Christ ce serait le jugement, les punitions, le blâme, la condamnation à la mort éternelle. On en arrive à écrire et à enseigner que le pécheur qui s'aventure à venir directement à Christ doit craindre son courroux. Mais s'il emploie la méditation de la Vierge, la colère de Dieu s'apaisera immédiatement envers lui. Le monde chrétien croit que l'on peut arriver à la vérité et au salut éternel par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Il n'y a rien du plus faux. Il est écrit qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À la question « Qu'est-ce que la vérité ?», Jésus a répondu « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité consiste à rester fidèle aux enseignements du Christ et non à des légendes écrites par des hommes. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 22, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Satan a fait du culte marial l'une des caractéristiques fondamentales de la fausse religion. Le culte marial est le ciment qui maintient dans l'unité une fausse église en perpétuelle perte d'adhérents. Le culte marial en est l'épine dorsale. Le culte marial est également une source importante de revenus financiers, d'où son importance. Le culte marial repose sur deux idées fondamentales, deux propositions totalement fausses. La première, c'est l'Immaculée Conception. La deuxième, c'est l'Assomption. Commençons par l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception désigne le dogme selon lequel la Vierge Marie aurait été conçue en dehors du péché originel. Ce dogme a été défini et promulgué par le pape Pie IX par une bulle papale en date du 8 décembre 1854. C'est un dogme qui arrive relativement tard dans l'histoire. Ce dogme est contraire aux enseignements de la Bible qui nous dit que tous les êtres humains, sans exception, ont péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Marie n'a pas échappé au péché. Romains 3, verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et laissez-moi vous dire que pas même un seul inclut également Marie. Marie est une pécheresse, comme le sont sans exception tous les hommes et toutes les femmes. Au lieu de dénommer Marie la Vierge Marie, il serait conforme au regard de la parole de Dieu de l'appeler Marie la pécheresse. Ce ne serait pas très élégant, certes, mais ce ne serait pas, en revanche, contraire aux enseignements bibliques. Quant à la prétendue virginité de Marie, c'est un mensonge. Marie, après avoir donné naissance miraculeusement à Jésus, Marie eut d'autres enfants qui ne furent pas engendrés miraculeusement comme le fut Jésus, mais furent engendrés par suite de relations. N'ayons pas peur de le dire, de relations sexuelles avec son mari Joseph. Appeler Marie Vierge Marie n'a pas de sens. En Matthieu chapitre 1, versets 24 et 25, il est écrit que Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils premier-né. Cela ne signifie pas que Marie resta vierge toute sa vie. Cela signifie que Joseph eut à attendre pour connaître sexuellement sa femme, que cette dernière donne naissance à Jésus. Christ, Jésus-Christ, eut des frères et des sœurs. Le Nouveau Testament en dénombre quatre frères au minimum, Jacques, José, Jude et Simon. Christ avait également des sœurs. Elles ne sont pas nommées, mais elles sont mentionnées. Les preuves bibliques de la non-virginité de Marie sont innombrables. Parlons maintenant d'un autre dogme du culte marial, l'Assomption. Ce dogme est apparu sur le pontificat du pape Pie XII. Ce dogme nous dit que Marie, en plus d'être née en dehors du péché originel, ce qui est faux, aurait été, par la grâce divine, enlevée corps et âme au ciel à la fin de sa vie terrestre. Le dogme de l'Assomption instruit que Marie serait maintenant au ciel à côté de Dieu. Prétendre que Marie est au ciel est contraire aux enseignements bibliques. Lisons cela dans la Bible. Hébreux 9, Hébreux 9, verset 27, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Marie, être de chair et de sang, est morte et attend la résurrection d'entre les morts comme tous les êtres humains qui sont morts. Elle n'est pas au ciel. La mort concerne tous les êtres humains, tous. Job 20, verset 23, livre de Job. Car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est ce qui nous attend tous. Aujourd'hui, Marie est morte. Elle est inconsciente et la prière n'est en conséquence d'aucune utilité. Elle ne peut pas entendre les prières. Elle est morte. Ecclésiaste 9, chapitre 9. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a une analogie frappante entre le culte rendu à Marie et le culte qui était rendu à Semiramis, la déesse mère de Babylone. Dans les deux cas, il est prétendu que ces deux femmes ne moururent point, qu'elles furent sans péché, qu'elles donnèrent naissance au Sauveur de l'humanité et qu'elles doivent être adorées. Semiramis, la déesse mère de Babylone, est le point de départ de toutes les déesses mères. La divinité mâle des Babyloniens se nommait Baal ou Bélus. Quant à la divinité femelle des Babyloniens, elle s'appelait Beltis. Beltis, le nom de la divinité femelle des Babyloniens, devint en grec Balti et plus tard en latin Mea Domina. Mea Domina, cela devient en français Madame et en italien Madonna. En Italie, on appelle Marie la Madone, ce qui signifie la Dame. La dame était le nom que l'on donnait à la divinité femelle des Babyloniens. Ne confondons pas les deux noms, Marie et Madone. Ils ont des sens très différents. Marie est un prénom d'origine hébraïque qui provient de l'hébreu, Myriam. Il signifie celle qui élève, alors que le nom de Madone, la Madone, fait référence à la divinité femelle des Babyloniens. Avez-vous remarqué que l'on appelle rarement Marie par son simple nom, Marie ? Marie est citée plusieurs fois dans la Bible, elle n'est jamais nommée la Vierge Marie, mais tout simplement Marie. L'apôtre Jean la désigne comme mère de Jésus sans lui donner de nom. Toujours dans la Bible, il est indiqué que Jésus est né d'une femme sans aucune autre précision. Dans les fausses religions, Marie, le nom de Marie est rarement utilisé. En tout cas, il est rarement utilisé seul. On adjoint presque toujours un complément au prénom de Marie, ce qui a pour but de changer le sens du nom et lui donner un sens non conforme aux écrits bibliques. Quelques exemples. On appelle Marie la Madone de Rome, ou encore la Sainte Vierge, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, Notre-Dame Marie de Nazareth, Mère de Dieu, Nouvelle Ève, ou encore Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame des Sept Douleurs, Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame de l'Éclair, tous des noms qu'on ne trouve pas dans la Bible. Notre-Dame des Neiges, Reine de tous les Saints, et j'en oublie. La Vierge Marie est le symbole et la représentation de Semiramis que l'on dénommait entre autres Myrionymus, ce qui signifie la déesse aux 10 000 noms. Marie est adorée comme une déesse païenne. Le fer est totalement opposé aux enseignements bibliques qui nous disent que l'on doit adorer que Dieu. Il est dit également de Marie qu'elle intercéderait auprès de Dieu. C'est faux. C'est oublier qu'il n'y a qu'un seul intercesseur possible, Christ. Lisons cela dans la Bible. 1 Timothée chapitre 2. Verset 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ces prières, doit-on les faire à Marie ? Non, on doit les faire à Dieu. Verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu. Marie n'est pas une médiatrice, il n'y a qu'un seul médiateur. Ce médiateur, c'est Christ, car il y a un seul Dieu, nous lisons au verset 5, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le médiateur est nommé Jésus-Christ. Verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Marie ne peut pas être médiatrice entre nous et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. De plus, la Bible n'enseigne nulle part qu'il y aurait possibilité de prier quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. En conséquence, il n'y a pas besoin de prier Marie ou de soi-disant saint, car il est écrit que tout le monde, sans exception, peut s'approcher du trône de Dieu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu, d'autant plus que ces intermédiaires n'existent pas. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 16, nous lisons. Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance de la Vierge Marie ?» Non, ce n'est pas ce qui est écrit. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Puisque Jésus intercède pour nous auprès de Dieu, nous n'avons nullement besoin que Marie ou les saints le fassent. Priez Marie, prier les saints, ou encore prier des personnes mortes que l'on croit au ciel, est contraire aux enseignements de la Bible. Toutes les fois qu'il est fait mention dans la Bible de prière ou de discussion avec les morts, c'est dans le contexte de la sorcellerie, de la nécromancie et de la divination, des pratiques fermement condamnées par les écrits bibliques. Au cours de cette étude, nous avons vu l'origine du culte à Marie, culte qui prend naissance immédiatement après le déluge. Mais avant l'épisode de la tour de Babel en la personne de Semiramis. Semiramis, la première déesse mère de l'histoire. La Madone de Rome, la Sainte Vierge, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, Notre-Dame, tous ces noms que l'on attribue à Marie ne se trouvent pas dans la Bible. Tous ces noms se rapporte à Semiramis, la Madone de Babylone. Nous avons vu, je vous ai montré, que le dogme de l'Immaculée Conception n'a aucun fondement biblique. Marie n'a pas été conçue en dehors du péché originel. Marie est une femme pécheresse, comme tous les êtres humains le sont. Nous avons également vu que Marie n'était pas restée vierge. Elle eut un certain nombre d'enfants. Nous avons également vu que le dogme de l'Assomption ne repose sur aucun verset biblique. Marie n'est pas montée au ciel. Pour le moment, Marie est morte et son corps repose en terre en attente de la résurrection des morts. Nous avons vu, nous n'avons pas à adorer la Vierge Marie ou lui rendre un culte. Le faire serait enfreindre le deuxième commandement qui nous dit de ne pas faire d'image taillée et ne pas se prosterner devant de telles images. Soyons conscients de toutes ces choses. Surtout lorsqu'on sait, par la lecture des prophéties bibliques, qu'au temps de la fin, le culte marial connaîtra une renaissance juste avant le retour du Christ. L'image de la bête dont il est question en Apocalypse 13 est littéralement la Vierge Mère ou la Madone dont on exigera du monde entier l'adoration. Une image de la Vierge Marie, une fois que les sacrifices qui auront repris à Jérusalem et arrêté à nouveau, une image de la Vierge Marie sera installée sur le mont du Temple, dans le Temple qui aura été reconstruit, et il sera demandé aux Juifs, aux Arabes et au monde entier d'adorer cette image. Il est même dit en Apocalypse, verset 13, Apocalypse 13, verset 15, que cette image va parler. Ensuite, ce sera la fin de la grande apostasie et le retour du Christ, finalement, prendra place. J'espère que cette étude vous aura aidé à comprendre ce qu'il en est réellement du culte marial. Une abomination.